Radio de la Paix, il est 12h. Le bulletin de midi, César Yao.
Bonjour à tous, le sommaire de ce jeudi midi. En tournée de sensibilisation sur les élections Ibrahim en Koulibaly-Cuibière, le président de la CEI était hier à l'école nationale de police d'Abidjan pour situer les responsabilités des agents de bureau de vote et la plateforme de la société civile, une fêtière de 37 organisations, associations ONG et mouvements de la société civile ivoirienne demande la dissolution de cette institution pour faire place à des acteurs civils afin d'avoir une présidentielle sans violence en 2025. Depuis le 1er juillet 2024, pour toute transaction financière, le gouvernement de Côte d'Ivoire a instauré un nouveau document, l'attestation de droit d'usage coutumier en remplacement de l'attestation villageoise. Pour Diallo Abdoulaye, directeur du domaine urbain, il s'agit pour l'État d'encadrer la production et la délivrance de ces documents avec la proposition d'un modèle unique d'ADU sur l'ensemble du territoire reconnaissable par tous. Dans l'actualité internationale, glissement de terrain en Éthiopie. Le bilan passe à 257 morts et pourrait atteindre les 500 selon l'ONU. En fin d'édition, l'invité de la rédaction, William Massanvo, chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité, se prononcera sur les récentes allégations du président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, accusant la Côte d'Ivoire et le Bénin de vouloir déstabiliser son pays. Il sera interrogé par Soro Adams. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Dans le cadre de la campagne d'éducation civique et électorale initiée depuis un mois par la commission électorale indépendante, le président de l'institution a été à l'école de police hier mercredi. Ibrahim Koulibaly-Cuibière a prononcé une conférence dont le thème est l'élection devant un nombreux public composé d'élèves, commissaires, officiers, sous-officiers de police, compte rendu signé Junior Carbin.
Comme lors des précédentes étapes, le président de la CEI a défini les différents acteurs ainsi que l'organisation des élections. Sur l'indépendance de la commission, Ibrahim Cuibière Koulibaly a rappelé les garanties qui encadrent l'institution.
Lorsque vous êtes nommé pour 6 ans, personne ne peut interrompre votre mandat dans son exécution. Mais avant même cette inamovibilité, vous prêtez serment. Et ensuite, il y a l'irresponsabilité. Ça veut dire que moi, Cuibière, dans l'exercice de mes fonctions, je peux prendre des décisions qui peuvent vous contrarier plus d'un. La loi dit qu'on ne peut pas m'interpeller. On ne peut pas me juger, on ne peut pas me mettre en prison pour cela. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'unité de poursuite. Et puis enfin, les décisions de la commission électorale indépendante sont susceptibles de voies de recours.
Concernant la question de la responsabilité des agents de bureau de vote qui sont des fonctionnaires recrutés par les préfets, suivant les précisions du président de la CEI.
Ils ne sont pas membres de la commission électorale. Ils exercent occasionnellement des missions qui sont relatives à la matière électorale, mais ils ne sont pas des agents. C'est vrai, ils agissent au nom de la commission, mais pas pour le compte de la commission. C'est pour cette raison que vous allez constater que dans leur mission, ils dressent procès verbal qu'eux-mêmes signent. Et nous, nous avons charge de vérifier si ce qu'ils ont fait est conforme à la loi, ce après quoi nous endossons ce qu'ils ont dit. Ils sont responsables devant la loi, ils sont responsables de leurs actes. Ils peuvent être poursuivis aussi bien disciplinairement parce que l'essentiel, ils sont des fonctionnaires, ou pénalement parce qu'ils sont des citoyens.
Le président de la CEI a indiqué devant les élèves policiers que le vote du personnel d'astreinte est possible là où il est en mission seulement pour l'élection du président de la République puisqu'il n'y a qu'une circonscription unique.
Et pour que l'on assiste à une présidentielle sans violence en 2025, la plateforme de la société civile, PECSI, demande la dissolution de la commission électorale indépendante au vu de sa composition actuelle pour laisser place à des acteurs civils, regroupant en son sein 37 organisations, associations, ONG, mouvements de la société civile ivoirienne. La PECSI a échangé récemment en marge de futures échéances avec le PDC-IRDA ainsi que des chancelleries étrangères le week-end dernier. Plus de précisions avec son président Ibrahim Rémy Yao.
La première des choses, nous demandons la dissolution pure et simple de la commission électorale existante, car elle n'a jamais été indépendante. Au vu de sa composition, dont 90% sont des militants actifs du RHDP et le reste pourcentage, disons, ce sont les membres de l'opposition ivoirienne.
Vous portez des accusations quand même graves, monsieur Prey. Avez-vous la preuve de ce que vous dites?
Non, nous ne portons pas des accusations graves. Il faut vérifier. Donc, les partis politiques en Côte d'Ivoire ont pris la commission électorale en otage. Il faut le dire net. Nous estimons qu'il faut la confier à la société civile, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ne sont pas affiliés à des partis politiques, de sorte qu'on puisse connaître réellement les forces et faiblesses de chaque parti politique.
Est-ce qu'il en existe des hommes et des femmes qui ne sont pas affiliés à des partis politiques en Côte d'Ivoire? Est-ce que la société civile ivoirienne n'est pas inféodée par les partis politiques?
Ah non, en 2022, nous avons déployé des observateurs avec nos propres moyens. Nous n'avons eu aucune subvention, ni de l'État, ni d'aucune entité. En 2023, nous avons déployé 715. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'on a déployé plus de 700 personnes pour aller sur le terrain pour constater et faire des propositions. Les partis politiques ont refusé de nous accompagner ainsi que le gouvernement. Mais nous l'avions fait parce que nous refusons que les jeunes gens meurent à cause des élections en Côte d'Ivoire.
Ebrin Rémi Yao, président de la plateforme PEXI, une fêtière de 37 organisations, associations, ONG, mouvements de la société civile ivoirienne, avec Désiré Gapina Ouattara. Depuis le 1er juillet 2024, pour toute transaction foncière impliquant la communauté villageoise, le gouvernement de Côte d'Ivoire a instauré un nouveau document, l'attestation de droit d'usage coutumier, remplacement de l'attestation villageoise. Sur les raisons qui ont motivé la mise en vigueur de ce nouveau document et les avantages y afférents, les précisions de Diallo Abdoulaye, directeur du domaine urbain.
Multiples attributions sur la même parcelle, la perte de la documentation foncière villageoise lors des transferts de pouvoir au niveau des chefferies, les insuffisances de la pratique des guides villageois et la prolifération des litiges fonciers. On a constaté aussi au niveau des villages que chaque village produit une attestation villageoise dans le format qu'il veut, avec le texte qu'il y a à l'intérieur, avec les logos qu'il veut, et cela n'est pas de nature à rassurer nos concitoyens dans l'acquisition des parcelles coutumières au niveau des villages. Parce que nos concitoyens ne savent pas sur quel genre de modèle de papier ils doivent se fonder pour avoir des parcelles sûres et sécurisées.
Donc, qu'est-ce qui a changé maintenant, monsieur le directeur?
Ce qui a changé, c'est que l'État s'est impliqué dans la production de ces documents. Et il s'agit pour l'État d'encadrer fortement la délivrance de ces documents. Donc, dans un premier temps, l'État propose un modèle unique d'attestation des droits d'usage coutumier sur l'ensemble du territoire, reconnaissable par tous nos concitoyens. Et c'est l'État même qui va produire ces documents-là et les mettre à la disposition des villageois pour qu'ils puissent faire les sessions de leur parcelle. De sorte à ce qu'ils n'aient pas la main eux-mêmes de produire ces documents dans les quantités qu'ils veulent sur les parcelles.
Est-ce que ces documents sont payants?
Ces documents ne sont pas payants. Ce document, il est gratuit.
Depuis quand c'est entré en vigueur ce document?
Ce document est en vigueur depuis le 1er juillet 2024.
Diallo Abdoulaye, directeur du domaine urbain, joint par Constant Maïlé. La ville de Yamoussoukro accueille depuis lundi un atelier de formation dédié aux journalistes et aux organisations de la société civile sur l'utilisation des données publiques issues du secteur minier. Cette formation a pour objectif de renforcer les capacités des participants dans l'analyse et l'exploitation des données publiques afin de promouvoir la transparence et la responsabilité dans le secteur minier. Des détails avec Jean-Mélène Bitti.
À quoi répondra cette formation dans un contexte où le secteur minier joue un rôle crucial dans le développement économique de la Côte d'Ivoire? Kouakou Yannick, conseiller technique, représentant du responsable composante du projet GIZ-GRSE.
De comprendre les enjeux du secteur minier, d'acquérir des compétences en collecte, en analyse, en visualisation des données, de développer des compétences en journalisme de données pour produire des rapports et articles informés.
Yannick Kouakou est revenu sur le contenu de cette formation qui permettra aux journalistes et les OSC de disposer de compétences nécessaires pour interpréter et relayer de manière efficace les données minérales.
Ces 5 jours de formation, vous participerez à des sessions plénières et interactives, des études de cas pratiques et des ateliers techniques. Vous apprendrez des experts sur des sujets allant de l'histoire du secteur minier au cadre juridique.
Professeur Yao Kouakou Alphonse, directeur de l'École supérieure des mines et par ailleurs coordonnateur du Centre d'excellence africain des mines et environnement de l'INPHB, donne ici les ambitions de son institution.
L'INP adopte encore plus les standards internationaux et l'INP est bien classé donc dans les institutions
l'enseignement supérieur. Nous avons l'intention donc de compter encore plus dans ces standards internationaux et d'avoir des formations qui sont à la hauteur donc de l'institution. Et bien sûr, ne pas rester une institution fermée, mais plutôt une institution ouverte au service de toute la Côte d'Ivoire en réseau avec toutes les autres universités du pays.
Cette formation sur l'utilisation des données publiques issues du secteur minier prendra fin le vendredi 26 juillet prochain.
Dans l'actualité internationale, de 5 en 5, le 22 juillet dernier, le bilan humain d'un glissement de terrain survenu lundi dans le sud de l'Éthiopie pourrait bientôt atteindre les 500 morts, selon un point fait par la branche locale de l'agence humanitaire de l'ONU au Tchad. Le gouvernement éthiopien avec les autorités régionales et locales termine un plan d'évacuation de plus de 15 500 personnes qui vivent aux alentours dans des zones comportant un risque élevé de nombre de nouveaux glissements de terrain et devant être évacués immédiatement, poursuit par ailleurs l'agence. La catastrophe est survenue dans une zone rurale et vallonnée située à environ 480 km d'Addis Abeba, la capitale du pays. À présent, l'invité de la rédaction, William Asanvo, chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité, se prononce sur les récentes allégations du président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, accusant la Côte d'Ivoire et le Bénin de vouloir déstabiliser son pays. Il est interrogé par Soro Adams.
Bonjour, monsieur William Asanvo.
Bonjour, monsieur Soro.
Récemment, précisément, le 11 juillet 2024, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État du Burkina, a porté de graves accusations et sur la Côte d'Ivoire et sur le Bénin, accusant ces deux pays d'abriter des bases visant à déstabiliser son pays, le Burkina. Qu'est-ce que cette situation vous inspire?
Alors, il faut peut-être signaler que ce n'est pas la première fois que le président burkinabé lance de telles accusations pour le cas de la Côte d'Ivoire. C'est effectivement la première fois qu'il évoque aussi le Bénin, mais pour le cas de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est la deuxième fois que de telles accusations sont portées. Alors, je pense que ce nouvel épisode illustre l'état de méfiance, l'état de défiance dans lequel les relations entre le Burkina Faso et plusieurs de ses pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire et le Bénin, se trouvent. C'est véritablement, je pense, un épisode qui rend encore beaucoup plus compliqué la coopération qu'il est nécessaire d'avoir entre ces pays-là, notamment pour faire face à la crise sécuritaire alimentée par l'activiste des groupes terroristes. Donc c'est une page assez problématique de la coopération au niveau bilatéral et même au niveau régional en Afrique de l'Ouest.
Mais faut-il s'en inquiéter sérieusement?
Oui, il faut s'inquiéter de cette absence de coopération entre les pays de la région. Il faut s'inquiéter de la fracture qu'on observe depuis plusieurs années, la fracture au niveau du bilatéralisme, donc de la relation entre plusieurs pays de la région, de la fracture au niveau du régionalisme, donc cette décision qui a été prise par le Burkina, le Mali et le Niger de sortie de la CEDEAO, c'est véritablement, je pense, un pas en arrière, sinon peut-être plusieurs pas en arrière, et tout au moins des évolutions qui ne sont pas de nature à permettre à la région de se retrouver pour faire face aux défis multiples auxquels elle est confrontée, notamment la crise sécuritaire.
Mais M. William Asanvo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, ce sont deux pays frères et la Côte d'Ivoire abrite de nombreux ressortissants du Burkina Faso. Comment voyez-vous la chose?
Oui, ce sont effectivement des pays qui partagent plusieurs liens, des liens culturels, des liens historiques, des liens humains. Vous évoquez la présence de millions de ressortissants burkinabés en Côte d'Ivoire. Mais il faut peut-être aussi rappeler que c'est des pays qui, au fil de leur histoire, ont connu des épisodes de cette nature, des épisodes assez tendus. On se rappelle que il y avait des accusations portées contre le Burkina Faso lorsque la rébellion a éclaté en 2002 en Côte d'Ivoire, des accusations qui étaient portées contre ce pays-là qui avait abrité et faciliter l'émergence de cette rébellion-là. On se souvient aussi que en 2015, il y avait une tentative de coup d'État au Burkina Faso et il y avait aussi des accusations qui avaient été portées contre des dirigeants politiques au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, On est là face à un nouvel épisode de cette relation qui a connu des hauts et des bas. Et donc là, on est dans une période plutôt de bas. L'espoir qu'on peut formuler, c'est véritablement qu'on puisse sortir assez rapidement de cette période de défiance et de méfiance pour véritablement se retrouver, pour faire face aux défis qui sont communs aux deux pays, notamment dans leurs zones frontalières, les défis d'ordre sécuritaire, mais aussi les défis en termes d'une meilleure gouvernance de l'espace transfrontalier, répondre aux besoins des populations vivant dans ces espaces-là. On peut souhaiter véritablement que cette page se ferme le plus rapidement possible.
Mais que conseilleriez-vous concrètement aux deux pays, Côte d'Ivoire, Burkina et Burkina-Bénin?
Je pense qu'il faut véritablement attirer l'attention sur le fait que cette posture est véritablement de nature à continuer à alimenter déjà l'insécurité qui est problématique dans les zones frontalières que partagent ces pays-là. Donc, de la difficulté pour ces pays à pouvoir se retrouver autour de cet enjeu commun véritablement contribuera à une détérioration encore plus accrue de la situation. Et je pense que ce sera encore beaucoup plus compliqué de pouvoir apporter des solutions appropriées à cette crise si, très vite, ils ne se retrouvent pas derrière ce qui est leur défi commun. Donc ce besoin de collaborer, ce besoin de s'entendre, ce besoin de se parler pour pouvoir apporter des solutions, des réponses aux besoins de leur population. Et ce sont les populations des pays concernés qui seront les premières victimes de cette situation si elle continue à se détériorer davantage.
Et en conclusion?
En conclusion, il y a véritablement un besoin de se lever à la hauteur des défis auxquels ces pays sont confrontés.
Je vous remercie, M. William Asambo.
Je vous en prie, M. Asambo.
Voilà, William Asambo, chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité, était interrogé par Sro Adams dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà qui met un terme à cette édition, tout de suite de rappel de deux titres. En tournée de sensibilisation sur les élections, Ibrahim Koulibaly-Cuibière, le président de la CEI, était hier à l'École nationale de police d'Abidjan pour situer les responsabilités des agents de bureau de voter la plateforme de la société civile. Une fêtière de 37 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne demande la dissolution de cette institution pour faire place à des acteurs civils afin d'avoir une présidentielle sans violence en 2020. Dans l'actualité internationale, au glissement de terrain en Éthiopie, le bilan passe à 257 morts et pourrait atteindre les 500 selon l'ONU. Fin de ce jeudi midi, retour à l'actualité 15h avec un flash d'information. Vous de suite la revue de presse avec Ghislain Koulibaly.
Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, les journaux nous plongent dans l'ambiance des JO 2024 et le voyage du Premier ministre ivoirien pour Paris est à l'ordre du jour, comme on peut le voir chez